t'es déjà demandé ce que ça ferait si quelqu'un pensait à toi jusqu'à dans les moindres détails, de ton bien-être à tes études, en passant par tes sorties culturelles, le tout avec de la petite musique dans les oreilles? Eh ben, tu sais quoi, t'es exactement là où il faut. Bonjour toi qui m'écoutes, bon appétit si tu manges entre deux cours, t'es en train d'écouter la nouvelle saison d'Étudiant Time, celle de 2026, l'émission qui s'adresse aux étudiants en études sup, en galère ou non, pour des tips et astuces sur ta vie d'étudiant. Moi c'est Myria, animatrice de cette émission et étudiante en psychologie à l'UCO d'Angers. Je passe mon temps à m'intéresser à des tas de trucs et à te les partager ici. Bienvenue à Malo, notre chroniqueur pour te débusquer les bons plans sur le plateau, puis Colin qui est en études de journalisme à l'UCO qui va t'informer des actus qui te concernent, ainsi que notre invité du jour dont je vais te parler juste après. Au programme aujourd'hui, on va démarrer par le journal étudiant présenté par Colin pour avoir toutes les news qui te concernent dans tes études supérieures. Tu t'inquiètes pour ton avenir, on va peut-être t'éclairer dans le focus étudiant. Après ça, je vais recevoir mon invité, Lali, qui va nous raconter la situation dans son département de naissance, Mayotte. Puis on va enchaîner avec l'astuce étudiante, bien sûr, on n'oublie pas la chronique santé mentale, où on va parler de ce que ton crush veut dire sur toi. On va enchaîner avec un débat de 10 minutes sur le sujet, sur le plateau, et enfin, on aura le droit à la chronique « Ça sort où ?» où notre chroniqueur Malo va donner les événements à venir pour te divertir. On commence l'émission avec les actus de Colin dans le journal étudiant.
Le journal.
Et on commence avec une initiative solidaire qui devrait parler à beaucoup d'étudiants angevins, et en particulier à ceux qui se destinent au métier de la santé. Face à la précarité étudiante, un dîner solidaire sera organisé à Angers au restaurant Les Petits Prés, place du Ralliement. À cette occasion, les étudiants en santé seront invités à partager un repas gratuit préparé par le chef Samuel Albert. Derrière cette initiative, un constat préoccupant. Selon une enquête récente, près d'un étudiant en médecine sur deux reconnaît sauter au moins un repas par mois pour des raisons financières. Entre les stages, les révisions et la charge de travail, bien manger devient parfois secondaire, voire impossible. L'objectif de ce dîner est donc simple, offrir un repas sain, de qualité, mais aussi un moment de partage et de reconnaissance à celles et ceux qui soignent et qui soigneront demain. Pour les étudiants concernés, c'est bien plus qu'un simple dîner, c'est une parenthèse conviviale, une façon de souffler, et un rappel que la solidarité étudiante existe aussi en dehors des amphis. On continue avec une info incontournable pour tous les lycéens et les étudiants en réorientation. Parcoursup édition 2026 est officiellement ouvert depuis le 19 janvier. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez dès maintenant créer votre dossier et commencer à formuler vos vœux pour la rentrée prochaine. Attention toutefois, rien ne se valide dans la précipitation. Jusqu'au 12 mars, cette phase est surtout là pour réfléchir, comparer les formations et affiner son projet. Licence, BTS, prépa, école, plus de 25 000 formations sont accessibles sur la plateforme. Les candidats peuvent formuler jusqu'à 10 vœux sans ordre de préférence, mais avec une lettre de motivation pour chacun. La confirmation définitive des vœux se fera ensuite entre le 13 mars et le 1er avril, et les premières réponses tomberont quant à elles à partir du 2 juin, avec, comme chaque année, des phases d'attente et une procédure complémentaire pour ceux qui n'auraient pas encore de proposition. Les mots d'ordre sont simples, s'informer, anticiper et surtout ne pas s'y prendre à la dernière minute. Et on termine ce journal avec une info qui concerne directement les étudiants angevins et plus largement l'avenir de leurs études. Le 9 janvier dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, était en déplacement à l'Université d'Angers pour évoquer un sujet sensible, le financement des universités. Un choix loin d'être anodin puisque l'établissement angevin fait face à une sous-dotation estimée à plus de 53 millions d'euros, avec un budget 2026 déjà annoncé en déficit. Concrètement, ce manque de moyens se ressent au quotidien, locaux vieillissants, équipements insuffisants, budget de recherche limité, des difficultés qui touchent aussi bien les enseignants que les étudiants, notamment sur les conditions d'études et de formation. Sur le campus de Belbeil, par exemple, le ministre a notamment visité un laboratoire de recherche de pointe où les chercheurs ont alerté sur le décalage entre l'excellence scientifique menée à Angers et les moyens disponibles pour la soutenir. Le gouvernement a lancé des assises nationales sur le financement des universités avec des propositions attendues d'ici le printemps. Un dossier à suivre de près donc, car derrière ces chiffres et ces débats budgétaires, ce sont aussi la qualité des formations, la recherche et l'avenir des étudiants angevins qui sont en jeu.
Merci Colin pour ce tour d'horizon hyper clair sur l'actualité. On continue avec mon invité du jour dont j'ai parlé tout à l'heure, Lali. Aujourd'hui, on parle d'un territoire dont on a tous entendu parler sans toujours comprendre ce qu'il vit, Mayotte. Un petit rappel important, on dit à Mayotte et pas en Mayotte. J'ai la chance d'être avec Lali, 25 ans, qui est mahoraise. Merci d'être là.
Merci de m'avoir invitée.
De rien. Pour commencer, tu peux te présenter et dire ce que représente Mayotte pour toi.
Alors du coup, moi c'est Lali, je suis née à Mamoudzou. C'est la vie chef-lieu du coup de Mayotte. J'ai passé 17 ans là-bas. Mes 17 ans de vie, je les ai passés là-bas. Du coup, à 17 ans, je suis arrivée en métropole pour continuer mes études. Et voilà. Qu'est-ce que représente Mayotte pour moi? Bah, du coup, Mayotte, bah, c'est mon île. Enfin, c'est là-bas que j'ai grandi. Et c'est tout ce que j'ai quasiment connu, on va dire. C'est chez moi, du coup.
Comment est-ce que tu décrirais Mayotte à quelqu'un qui n'y est absolument jamais allé?
Je commencerai par les plages. C'est vraiment réellement ça, je commencerai par les plages, le lagon, l'accueil aussi que les touristes pourraient avoir. Quoi d'autre, la manière dont c'est, enfin la manière dont il est agencé, c'est bête à dire agencé pour une île. Et du coup, il y a deux îles, il y a Grande Terre et Petite Terre. Et en fait, quand on arrive, l'aéroport est en Petite Terre. Et du coup, pour arriver en Grande Terre, il faudra prendre la barge, l'équivalent. D'un bateau, on va dire comme ça. Je veux dire Navibus pour les Nantais.
Ah oui.
Oui, c'est plus ça. Et aussi, bah, je dirais, c'est plein de petits trucs, mais par exemple, l'hippocampe aussi, qui est important, parce que du coup, Mayotte a la forme d'hippocampe. L'ilang-ilang aussi, l'hippocampe et l'ilang-ilang, en fait, font partie, bah, par exemple, du drapeau maoré, c'est les emblèmes.
D'accord. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'était important d'en parler aujourd'hui aux étudiants qui nous écoutent sur la radio?
Parce que je dirais qu'en fait, c'est pas tout le monde qui connaît forcément Mayotte et c'est aussi important de connaître aussi les autres départements et les personnes qui y habitent, tous les étudiants. J'imagine que t'as forcément des étudiants maorais qui doivent m'écouter et ça fait aussi plaisir d'entendre parler de chez soi.
En décembre 2024, à Mayotte, le cyclone Chido a frappé avec une violence extrême. D'après Météo France, l'île a été placée en alerte rouge et de nombreuses habitations ont été arrachées. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé concrètement pour les habitants?
Alors pour le coup, moi j'y étais pas, enfin j'ai envie de dire je suis chanceuse parce que du coup j'y étais pas, mais mes parents et mes frères et soeurs, eux, ils y étaient. Du coup pour ce qui est du cyclone, en fait ça a frappé le lendemain, ça a frappé le 14 décembre. Le lendemain de Miss France. Là, je me rappelle ce que je regardais. Et ce que mes parents ont pu me raconter, en fait, que ça a été très violent. C'était vraiment très violent et que d'un coup, et que beaucoup de personnes, en fait, de base, n'y croyaient pas. Parce que pour ce qui est de Mayotte, en fait, on a l'habitude que durant les périodes de décembre, c'est parce que c'est les périodes du coup de pluie, la saison des pluies, on a l'habitude, en fait, qu'on nous mette en alerte orange ou alerte rouge par rapport au cyclone. Et là, pour le coup, c'est vraiment arrivé depuis, du coup, 80 ans. La dernière fois, c'était arrivé, c'était avec le cyclone Camis. Et du coup, ça a été très, très violent, en fait. Beaucoup de décasage. Quand j'en parle encore avec mes parents maintenant, ils me disent clairement qu'il y a un avant et un après. Surtout dans le village, beaucoup de choses qui sont tombées. Et beaucoup de maisons en tôle aussi qui ont volé. Donc, voilà.
Après ça, est-ce que les familles ont pu reprendre une vie normale?
Ça dépend pour qui. Ça dépend de qui a de la chance ou pas. Par exemple, je sais que moi, pour mes parents, en fait, ça a été. Enfin, on n'a pas pu reprendre non plus une vie normale, on va dire. Beaucoup de personnes avancent à leur rythme. Mais selon les familles, selon les moyens qu'on puisse avoir. Parce que je sais que moi, par exemple, pour ma famille, ça a été. On a été chanceux, c'est clair. Enfin, c'est le mot que je devrais utiliser. On a été chanceux parce qu'on on a une maison dure. Et beaucoup de personnes à Mayotte, en fait, n'en ont pas. Enfin, il y a des bidonvilles. Et par exemple, pour les bidonvilles, en fait, beaucoup, du coup, ont été arrachés par le vent. Et ce qui fait que, chacun sa chance, on va dire, et que chacun avance à son rythme. Je sais qu'il y a eu aussi beaucoup d'entraide, mais après ça, en fait, il y a eu énormément de problèmes parce que les infrastructures, étaient démolies pour ce qui est, par exemple, les écoles ou même l'hôpital. Et pour ce qui est aussi de l'eau, bien avant ça, en fait, avant même qu'il y ait le Chido, le cyclone, Il y avait aussi des problèmes d'eau, beaucoup de coupures d'eau. Et après ça, c'était encore une catastrophe. Hein. Vraiment rationné, on va dire. Donc, je sais que beaucoup de familles ont fait en sorte de pouvoir envoyer des conteneurs. Il y a aussi bah, du coup, des aides humanitaires et aussi des cagnottes qui ont été faites.
Oui, et on en parlera juste après. On va rappeler un chiffre pour comprendre le contexte. D'après l'INSEE, environ 77% de la population de Mayotte vit sous le seuil de pauvreté nationale, ce qui en fait le département le plus pauvre de France. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui est le plus mal compris par ceux qui regardent ça depuis la métropole, à ton avis, genre ici, quand on parle avec d'autres personnes, c'est quoi leurs préjugés peut-être ou leurs fausses idées sur ce qui se passe là-bas?
Je pense que la question qui va revenir le plus souvent, c'est pourquoi. Pourquoi on se retrouve à être en souffrance, du coup, vraiment souffrance, clairement. Et pourquoi on s'inflige ça? Là, je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer non plus, on va dire. Mais du coup, qu'est-ce qui est le plus...
C'est peut-être aussi au niveau de l'information qui nous est transmise, qui n'est pas forcément... Tu vois ce que je veux dire? Qui est oui. Assez aléatoire, on va dire.
Bah, pour le coup, oui. On va dire que réellement, c'est pas forcément... quelque chose qu'on va, enfin, pour ce qui est de Mayotte, ou là, je sais pas si on doit forcément parler de Chido, forcément, parce que je sais que pour Chido, ça a beaucoup tourné, j'ai vu dans beaucoup de chaînes, beaucoup de personnes en ont parlé, même des chaînes japonaises, tiens.
C'est ça, mais là, par exemple, on est plus d'un an après, et en fait, on en a entendu parler, quoi, un mois.
C'est ça.
J'ai l'impression. Ouais, c'est ça.
C'est ça, et, un an après, je vais pas mentir, y a rien qui a changé.
C'est fou. Comment les jeunes que tu connais ont vécu cette période?
Très mal. En fait, ça, je pense que ça revient aussi. Je crois que je suis en train de créer, je sais pas. Ça revient aussi en fait par rapport à ce que je disais juste avant. En fait, ça dépend de la chance qu'on puisse avoir. Ça dépend dans quelle famille on est. Ça dépend de où on se trouve dans l'échelle sociale. Et par exemple, mais quand même, il y a eu un gros choc. Il y a un gros choc pour tout le monde. Je sais que par exemple, mon petit frère, quand il en parle, il y avait une sorte de sidération en fait, vraiment de voir les tôles voler, de sortir et de se rendre compte que le quartier qu'il a connu toute son enfance, bah, c'est plus le même. Et en fait, du coup, y a eu tout un choc. Et comme je dis, ça, c'est chacun sa chance. Les personnes qui avaient les moyens ont pu envoyer leurs enfants, du coup, bah, venir étudier en métropole parce que les écoles, comme j'ai dit, il y en avait pas en fait. Enfin, pour ce qui est par exemple de mon village, les écoles maternelles, les écoles maternelles et primaires, pour celles qui étaient encore debout, on va dire, c'était 2 heures de cours par classe. Par classe et par village aussi qui venait jusqu'à maintenant, c'est toujours pas une scolarité normale. Et en fait, ceux qui ont eu la chance ont pu aller en métropole à La Réunion.
Et donc, du coup, l'impact sur leurs études et leurs projets, c'est compliqué, quoi.
C'est ça, exactement, en fait. Beaucoup ont abandonné. D'autres ont eu le bac, on va dire, dans le vent. Enfin, permettez-moi le jeu de mots.
Mais un peu comme la période Covid.
Exactement. Enfin, beaucoup l'ont eu comme ça. Mais énormément de décrochage en vrai. Mais en dehors de ça, ça n'empêche que les gens continuent quand même à vouloir produire et continuent quand même à vouloir créer et avancer en fait. C'est pas parce que l'État nous a pas forcément aidé ou nous a aidé à sa manière, on va dire, que les Maoris eux-mêmes s'arrêtent juste sur ça et attendent forcément pour pouvoir avancer. Ils le font à leur rythme.
C'est hyper intéressant ce que tu dis. Merci beaucoup de me raconter ça. On va faire une petite pause parce que je pense que c'est un peu dur aussi pour les auditeurs à digérer, on va dire. On va faire une petite pause musicale pour calmer un peu l'ambiance. Mmh. Tu m'avais parlé d'une musique que tu aimerais bien faire passer. C'est la chanson Ton Abri de
Mon Abri.
C'est Mon Abri, pardon.
Mon Abri de MJ et Tom Fragé.
Tom Fragé, oui, c'est
en fait,
ça.
Cette chanson-là, du coup, en fait, pour les Maorais, ceux qui, surtout qui prennent Air Austral, ils vont forcément la connaître parce que c'est celle qu'on entend quand on arrive sur l'île.
Ah oui, carrément.
C'est celle qu'on entend dans l'avion, en fait. C'est vraiment celle qu'on met.
Ok, très bien. Et bah, du coup, on va mettre Mon Abri de Tom Fragé et MJ tout de suite. On se retrouve juste après la musique.
Mon abri, c'est quand même là le capitale. Le regard à l'affût d'un idéal, souvent effacé par des illusions.
Bercé par le vent des îles dans mon berceau depuis tout gamin. Yes, j'ai grandi loin des villes où il y a assez pour chacun. Et maintenant
je sais que c'est quand même là le plus beau des voyages. Je viens ici, je veux retrouver mon abri. C'est quand même là le plus beau des voyages. Je viens ici contempler mon paradis.
M'éloigner pour des contrées lointaines me rend fou à perdre la raison.
Je n'ai jamais quitté l'amour de mes racines. Et depuis le début, je sais que sans lui, je vacille. J'ai beau m'en aller loin de tout ce qui fait ce que je suis. Je reviens d'où je suis parti.
C'est quand même là le plus beau des voyages. Je viens ici, je veux retrouver mon abri. C'est quand même là le plus beau des voyages. Je viens ici contempler mon paradis. C'est quand même là le plus beau des voyages. Je viens ici, je veux retrouver mon abri. C'est quand même là le plus beau des voyages. Je viens ici contempler mon paradis. C'est quand même là le plus beau des voyages. Je viens ici, je veux retrouver mon abri. C'est quand même là le plus beau des voyages. Je viens ici contempler mon paradis.
Plus fort. T'as coupé le fil. T'as compris le deal. Tout est plus facile quand on devient fou.
Vous venez d'écouter Mon abri de Tom Frager et MG. Je suis toujours avec mon invitée Lali qui nous parle de la situation à Mayotte, qui est son département d'origine. Du coup Lali, malgré tout ça, quelle force t'a donné le fait de grandir à Mayotte? Qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre là-bas au niveau de ta personnalité?
Je dirais...
Ou même plus globalement, les choses que t'as appréciées, tu vois, qui te restent en toi.
Ce qui reste en moi, c'est le soleil. C'est le soleil et la plage, franchement. C'est souvent ce qui va revenir. Parce que bon, là, on est en période de froid. Oui, et on en a tous besoin de soleil. Et du coup, mais aussi en fait, beaucoup du coup, de joie de vivre aussi, en fait. De joie de vivre. Après, ça reste aussi un endroit, en fait. Il y a plein de problèmes aussi, on va pas non plus se mentir. Mais j'ai adoré grandir là-bas. En fait, j'ai énormément aussi aimé l'accueil qu'on puisse avoir avec les gens tout autour de nous. Enfin, on arrive dans un endroit où on va sentir forcément des dépaysés, mais tu poseras la question à Maoré où tu devrais aller, et en fait, on t'indiquera, à la limite, on te tiendra la main pour t'amener à cet endroit-là, en fait.
T'auras pas c'est hyper convivial, c'est
chaleureux. Exactement, en fait. Et même si là, demain, il y a un problème quelconque, généralement, en fait, ils ont beaucoup aussi un esprit de famille. Un esprit de famille et aussi une grosse, on va dire, résilience aussi dans plein de trucs.
Oui, c'est ça. Donc, du coup, tu dirais que c'est ça les valeurs ou les traditions de Mayotte que t'aimerais faire découvrir ici, par exemple?
J'aimerais faire découvrir l'accueil. J'aimerais faire découvrir le fait que on puisse se sentir à sa place à un endroit qui n'est pas forcément chez soi non plus, en fait. Et qu'on a aussi énormément à apporter, à part du coup tous les problèmes qu'il puisse avoir. Mais l'île a énormément à montrer, que ce soit dans les paysages ou même dans la culture en elle-même, en fait.
Oui, tu me parles aussi du fait que, par exemple, les aînés, ils n'étaient pas abandonnés comme nous, on peut être les personnes âgées dans les maisons de retraite. Alors là, je le dis très vulgairement, mais oui. Concrètement, dans d'autres cultures, c'est inacceptable, quoi, ce qu'on fait.
Oui, je sais qu'à mettre, enfin oui, complètement, tout ce qui est des aînés, une personne âgée, en fait, va forcément rester avec sa famille. Rester avec sa famille, va être... Enfin, après, tout dépend aussi de la relation qu'ils ont pu avoir, et puis chacun gère ses liens familiaux comme il le souhaite. Mais généralement, en fait, ils ne seront pas laissés pour compte. Enfin, il y aura toujours quelqu'un autour d'eux jusqu'au dernier souffle, on va dire. Et que ce soit les aînés ou même les personnes malades, les personnes avec une santé mentale fragile, ces personnes-là vont forcément, en fait, trouver un refuge chez quelqu'un à un moment donné.
Et en fait, tout le monde veille un peu sur tout le monde, quoi.
C'est ça, en fait, on a comme dicton que, par exemple, pour les enfants, on dit qu'à Mayotte, un enfant est élevé par le village, n'est pas élevé que par les parents. Et tout le monde, en fait, qui va aider à l'éducation de l'enfant.
D'accord. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Les enfants, donc, ils sont élevés, comme tu as dit, par un peu les voisins, la famille qui est plutôt élargie, tout le
c'est
quartier.
Ça.
C'est une solidarité un peu informelle. Est-ce que tu dirais qu'elle compense le manque de services publics, le fait que ce soit pas très encadré, qu'on peut... Est-ce que peut-être là-bas, on ne peut pas vraiment compter sur des aides, sur des personnes là pour ça, les psychologues, je ne sais pas c'est quoi la place des psychologues là-bas, la santé mentale.
Sans mentir, elle n'a pas vraiment une grande place. Ouais. c'est pas vraiment quelque chose qui culturellement est instauré, malheureusement. En fait, pour tout ce qui est psychologue, c'est encore le gros cliché de si tu vas sur un psychologue, c'est que t'es fou et puis suti quanti. Mais...
C'est fou, c'est paradoxal parce que comme tu disais, quelqu'un qui peut-être ici en France passerait pour le fou de village entre guillemets, quelqu'un qui serait mis à l'écart, et là non, tout le monde veille un peu sur tout le monde.
En fait, même si on sait que c'est le fou du village, c'était mon péjoratif.
Oui, c'est vraiment dit n'importe comment, ça va pas, on s'excuse.
Exactement, je suis désolée. Mais même si c'est le cas, enfin pas le cas, mais voilà, cette personne-là sera quand même encadrée. Je sais que, par exemple, moi, dans mon village, même dans mon quartier même, il y a une dame, en fait, j'ai grandi avec elle, en fait. Elle a même connu ma tante qui était habitée là et qui a déménagé. Et cette personne-là, en fait, mentalement parlant, elle est pas avec nous, on va dire, clairement. Enfin, je sais pas, je dis très mal.
Elle est pas très consciente, peut-être, de
ce qui se passe. Okay. Pas du tout, en fait. Et pour autant, elle n'a pas été abandonnée. C'est-à-dire que même quand sa mère qui s'occupait d'elle est décédée, là, il s'avère que jusqu'à maintenant, en fait, c'est les personnes du village, c'est les voisins qui vont venir, par exemple, pour l'Aïd, pour les fêtes religieuses, lui acheter les vêtements, l'apprêter, lui donner à manger, lui dire qu'à telle heure, tu dois aller dormir, enfin, tout gérer. Pour autant, elles ne sont pas de cette famille-là, mais puisqu'elle est là, on va veiller sur elle. Mais tout ce qui est psychologue et tout ça, malheureusement, en fait, comme tu as dit, oui, c'est paradoxal, c'est pas du tout encadré. Enfin, ils ne prennent pas en compte... Il y a un long chemin, on va dire un long chemin, et j'espère que les jeunes qui nous écoutent et même ceux qui sont conscients feront en sorte qu'on puisse avancer par rapport à ça.
Justement, super transition. Si on devait agir rapidement pour améliorer la vie des jeunes à Mayotte, quelles seraient les priorités pour toi?
Je dirais des infrastructures.
Oui, parce que là, il n'y a même pas les lieux, en fait.
Là, plus rien. Enfin. Clairement, déjà qu'avant, il n'y en avait pas tant que ça. Là, c'est tout à reconstruire. C'est tout à reconstruire des infrastructures. Je pense qu'aussi, peut-être, remettre en place tout ce qui était culturel, en fait, parce que c'est aussi triste à dire. Mais avec la mondialisation, avec le fait qu'on puisse sortir et qu'on aille dans d'autres pays, tout ce qui est culturel commence petit à petit à se perdre. Et comme ça revient aussi à ce que je disais, un enfant est élevé par le village. Culturellement aussi parlant, en fait, ça aide énormément parce que la manière dont on va agir, pour ce qui est par exemple les danses traditionnelles ou même, j'ai pas d'autres exemples qui viennent.
Les tenues,
exactement aussi. Même par exemple, faire des barbecues.
La musique aussi.
Faire des barbecues, les sports, tout ça, en fait, tous ces petits trucs-là qui font qu'on se regroupe et qu'on se sent pas seul. Et en fait, en évitant d'être seul, on évite aussi parfois, de mal tomber. Après, tout dépend du groupe dans lequel on traîne, bien sûr, mais on évite aussi de mal tomber et de pouvoir avancer et d'être ambitieux. C'est aussi ça, en fait, qui manque à beaucoup de jeunes, en fait, à la fin, c'est que beaucoup partent avec une grosse ambition et à la fin, en fait, se retrouvent bloqués et par X ou Y raison. Et à la fin, ils se retrouvent, comme tu pourrais dire ici, à tenir des murs qui n'existent pas, mais c'est par exemple.
Et nous, nous jeunes en métropole, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, tu vois, pour soutenir et mieux comprendre les jeunes mahorais sans prétendre parler à leur place? Comment pas être maladroit, tu vois?
Bah, du coup, en s'informant, en écoutant, bah, du coup, en écoutant les témoignages des autres aussi, faire un peu comme pour moi là à la radio, pouvoir parler de Mayotte, de Lille et de ce qu'on vit, en fait, nous écouter, on va dire.
Oui, c'est ça, donner la place en fait aux gens de s'exprimer.
Exactement.
Les gens directement concernés. Il y a beaucoup de jeunes mahorais en métropole d'ailleurs, qui sont souvent très isolés. Et c'est pas que de l'année dernière, enfin c'est au quotidien j'ai envie de dire. Mmh. Il existe du coup, pourtant comme tu l'as dit tout à l'heure, des associations qui peuvent les accompagner. Du coup je vais en citer quelques-unes. Donc il y a la Fédération des associations mahoraises de métropole, le réseau Laïki, l'association des étudiants mahorais dans le monde, Machaka Media Anna Mayotte. Ces associations du coup jouent un rôle essentiel d'accueil, d'entraîne et d'information pour les jeunes mahorais qui arrivent en France. Lali, si un ou une étudiante mahoraise nous écoute depuis la métropole, qu'est-ce que tu veux lui dire?
De pas rester seule. C'est clairement en fait ce que je pourrais répéter le plus souvent en fait, c'est de pas rester seul, de contacter les associations parce que généralement dans les grandes villes il y en a, même en étant, quand je suis arrivée ici à mes 17 ans, c'est aussi les phrases que, enfin c'est ce que mes parents m'ont dit, de me mettre dans des associations mahoraises directement. Par exemple je sais qu'à Nantes il y en a, j'imagine que peut-être à Angers on doit en avoir aussi, à Paris aussi, enfin dans les grandes villes généralement il y en a, de pas rester seul, de chercher un groupe en fait, pas forcément mahorais non plus, mais même d'autres personnes. Et aussi, par exemple, pour les études, de pas avoir peur de recommencer. De pas avoir peur de recommencer. En fait, si tu commences une année et que tu la finis pas, c'est pas forcément dire que c'est un échec, en fait. Que tu peux reprendre une autre année, que t'as le droit, t'as le droit à l'erreur, t'as le droit de recommencer. Et c'est une chance de pouvoir venir, enfin, c'est triste à dire, c'est une chance de pouvoir venir et de continuer des études que tu ne payes pas. Il faut en profiter.
Et pour ceux qui pensent connaître Mayotte sans même jamais y être allés, qu'est-ce que tu leur dirais?
Comment, pardon?
pour ceux qui sont jamais allés à Mayotte et qui se font des idées préconçues sur Mayotte, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu leur conseilles d'aller, je sais pas, d'aller voir sur place?
Bah oui, clairement, c'est le plus simple en fait. On a l'expression, je suis marrée, qui dit Majashijavu, j'y vais, Shijavu. L'eau, en français ça va être clairement le lait de coco en fait, enfin l'eau de coco qu'on boit en fait, c'est beaucoup mieux quand tu bois dans le coco lui-même, dans la coco lui-même, dans la noix de coco directement en fait. Exactement. Et que c'est mieux directement d'aller sur place et d'entendre les personnes et de voir. Après il faut aussi partir avec c'est bien aussi d'avoir quelques a priori, comme ça en fait en arrivant sur place on les déconstruit
aussi. C'est vrai. Et aussi, bah, peut-être de ne pas réduire Mayotte à la crise, parce que c'est bien plus que ça.
Non, non. Comme j'ai pu le dire dans l'interview, Mayotte a beaucoup à offrir. Enfin, il faut juste lui laisser le temps et la chance d'apprendre à la connaître.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Non. Pardon. Non, j'ai rien d'autre à ajouter depuis tout à l'heure.
Bah, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que t'as raconté. C'est hyper intéressant.
D'accord, tant mieux.
Et encore merci d'être venu. J'espère que ça aura parlé à pas mal de personnes et que vous pourrez faire connaître ces informations autour de vous.
Plus fort.
Pendant les vacances de Noël, on s'est tous tapé Last Christmas de Wham. Et du coup, cette fois, j'ai envie de mettre un autre son du même groupe. Je vais donc vous faire écouter Everything She Wants par Wham. Bonne écoute.
She wants is everything she sees. I guess I must.
Vous êtes de retour sur Radio G, vous venez d'écouter Everything She Wants de Wham. On poursuit avec la chronique santé mentale sur ce que notre crush dit de nous. Pourquoi avoir un crush parle plus de nous que de l'autre ? Quand on parle de crush, on ne parle pas de quelqu'un avec qui on entretient une relation amoureuse ou sexuelle. Un crush, c'est un coup de cœur. C'est une attirance souvent asymétrique, parfois intense, pour une personne avec qui il n'y a pas ou pas encore de réelle relation. Et il y a un point important, avoir un crush n'est pas réservé aux personnes célibataires. Des études montrent que les crushs existent aussi chez des personnes en couple et qu'ils n'ont pas automatiquement le signe d'un problème relationnel ou d'un désir d'infidélité. D'ailleurs, une étude menée chez de jeunes adultes montre qu'environ 15% des crushs seulement débouchent sur une relation concrète. Dans la majorité des cas, le crush reste donc une expérience intérieure plus qu'une histoire vécue à deux. Face à un crush, les réactions sont très différentes. Entre celles et ceux qui préfèrent complètement ignorer leur crush et ceux qui suranalysent absolument tout, chaque regard, chaque message, chaque micro-expression, il existe toute une palette de réactions possibles. Les neurosciences affectives montrent que le crush active le système de récompense du cerveau, notamment via la dopamine. Ce système est impliqué dans la motivation, l'anticipation du plaisir et aussi le désir. Autrement dit, on n'est pas seulement attiré par une personne, mais parce que cette personne nous fait espérer ressentir. En psychologie sociale, on parle beaucoup de projection et d'idéalisation. Quand on connaît peu quelqu'un, notre cerveau comble les zones floues. On attribue à l'autre des qualités, une sensibilité, parfois même une compatibilité qui n'a pas encore été vérifiée. Les recherches montrent aussi que les crushs sont souvent liés à nos besoins psychologiques du moment. Le besoin de reconnaissance, de valorisation, d'intensité émotionnelle ou de nouveauté. Le crush devient alors une sorte de raccourci émotionnel. Il concentre beaucoup d'attentes sur une seule personne. Le rapport au corps et à l'image aussi, l'image de soi, joue également un rôle important. Plus l'estime de soi est fragile, plus le regard de la personne sur qui l'on a un crush peut prendre une place démesurée comme une validation de sa valeur personnelle. Enfin, avez-vous déjà entendu parler d'un terme de plus en plus à la mode, la limérance, un état d'attirance intense caractérisé par des pensées récurrentes et une forte focalisation sur l'autre, souvent entretenue par l'incertitude. Ce n'est pas une pathologie, mais un état émotionnel documenté. Tout ça, ça fait beaucoup de pistes, mais pour conclure, avoir un crush, c'est donc ni ridicule, ni à contrôler. Mais c'est quelque chose qu'on peut observer avec une certaine curiosité. Pourquoi cette personne ? Pourquoi maintenant ? Et pourquoi avec cette intensité-là ? Parce qu'un crush ne dit pas seulement quelque chose de l'autre, il dit souvent beaucoup de ce dont on a besoin, ici et maintenant, dans notre vie. Maintenant, on prend un moment au studio pour échanger autour de cette question du crush. Est-ce que vous avez des crushs qui se ressemblent ou se répètent d'une certaine manière ? Par exemple, un même type de personne, une même dynamique, quelqu'un tout le temps quelqu'un d'inaccessible, quelqu'un de beaucoup trop collant alors que vous détestez les gens collants. Ça vous arrive ou pas ?
Moi, mes crushs, ils sont fictifs généralement.
Ok. Et c'est vrai que pour moi, c'est exactement la même question au final.
Moi, mes crushs, elles sont très riches.
Ok. C'est très particulier comme type de crush. Ok. Et du coup, mais c'est marrant ce truc, j'avais pas du tout pensé aux crushs fictifs en fait, en réalisant la chronique. Je pensais vachement, simplement aux personnes qu'on croise, qu'on rencontre et tout. Et c'est vrai que fictif, il y a encore moins de risques que la personne te déçoive parce qu'elle est fausse.
Complètement, complètement. Non, après, moi, j'ai très peu, voire pas du tout de crush sur une personne que je rencontre dans la vraie vie. Quelqu'un que je rencontrais et si j'estime que j'ai un crush sur elle, c'est que moi dans ma tête je l'avais pas mis dans une case.
Oui.
Et que moi c'était pas casé, ça veut donc dire que à un moment donné en fait juste être attiré par elle et en fait que je voudrais plus.
Oui. Donc t'as une curiosité envers la personne parce que tu sais pas vraiment qui elle est, dans quelle case elle va être précisément.
Une curiosité, même une méconnaissance je dirais. Genre je sais plus que, enfin, si en fait si par exemple j'apprends à connaître la personne, je peux pas être en crush sur elle. C'est que je vais l'aimer ou je vais être attirée par elle. Pour moi, vraiment, un crush, c'est vraiment quelqu'un que je ne connais pas,
oui,
que
oui,
je vois
ça.
Vraiment de loin et que, du coup, majoritairement, ils sont fictifs.
Ok, ok, je comprends. Est-ce que vous avez déjà eu un crush sur quelqu'un qui, objectivement, n'était absolument pas fait pour vous ?
Oui.
Est-ce que, du coup, c'était quelqu'un qui était à l'opposé de ta personnalité, par exemple ?
En vrai, j'en sais rien parce que je lui ai jamais parlé de ma vie.
Ah oui ?
Mais.
Oui, non, du coup, c'était quelqu'un que tu connaissais pas, c'était pas un ami.
Mais je sais qu'avec cette personne, c'était impossible, dans tous les cas. Parce qu'on était trop opposés, on avait trop de différences d'âge, on avait trop de différences de goût en matière de style vestimentaire, de tout en fait, de tout ce que je voyais d'elle, ça aurait été jamais possible.
Ok, c'est marrant, et bah, du coup on va en parler un petit peu. Qu'est-ce qui nourrit le plus un crush selon vous ? Donc la personne réelle ou ce que vous imaginez autour ? Donc, par exemple... quelqu'un qui est hyper distant, quelqu'un de mystérieux, quelqu'un de fictif. Ça, c'était pas dans mes questions. Est-ce que vous avez une idée du coup de ce qui fait que ce crush il est vraiment plus un crush est fort en fait, plus peut-être c'est une personne que vous imaginez seulement. C'est juste l'image de la personne que vous avez.
Moi, c'est une personne que j'ai idéalisée plus qu'autre chose, en fait.
Clairement.
Moi, du coup, puisque majoritairement, ils sont fictifs. comment ils ont été écrits. C'est comment ils ont été écrits.
Mais du coup, tu parles de personnages de romans ou par fictif, qu'est-ce que tu veux dire?
Ça peut être des personnages de dessins animés, d'animés, de mangas, de romans, enfin, des stars, mais même les. Enfin, très peu de stars. Très peu de stars. Vraiment, majoritairement, c'est des personnes qui n'existent vraiment pas.
Ouais.
Qu'on a écrit. Je sais pas qui a pu écrire, mais enfin, ça dépend des auteurs, mais généralement, ça va vraiment être dans ça et ça peut durer très, très, très longtemps.
Est-ce que du coup, le fait qu'il se passe rien, bah, du coup, ça renforce ton crush pour la personne ?
Alors, moi, mes crushs, par exemple, ils sont dans des. Enfin, eux aussi, ils sont dans des cases et c'est pas du tout les mêmes. Et on va dire que moi, mon crush ultime, je suis attirée par lui, mais par exemple, s'il a demain. Elle devait apparaître dans la vraie vie et que genre, j'avais l'opportunité de pouvoir me mettre avec, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas parce que je veux qu'il soit en couple avec quelqu'un d'autre.
Mais après, toi, bon.
Mais en fait, et du coup, ça enfin, moi, il est inaccessible et je suis heureuse comme ça, en fait, qu'il soit pas avec moi. Enfin, lui, c'est mon crush ultime, en fait. Mais je veux pas qu'il soit avec moi. Avec quelqu'un d'autre, mais pas moi.
Est-ce que certains de vos crushs vous donnent l'impression d'être une meilleure version de vous-même ? Ou genre, non, pas du tout.
Non, pas du tout.
C'est fou parce que moi, du coup, quand j'ai un crush, je suis hyper motivée. Genre, je vais me faire je sais pas, beaucoup plus jolie, je vais avoir hâte de retrouver cette personne. Donc, je sais pas si c'est en cours, par exemple. Ah, j'ai trop hâte d'aller en cours parce que je vais revoir mon crush. Il sera à cette soirée, donc du coup, je vais me motiver pour sortir et voir du monde et sortir de ma zone de confort et tout. Ça vous parle pas, ce sentiment-là ?
Si, ça, moi, ça me parle. Mais c'est plus, on a des points en commun ou quoi. Et du coup, ça me motive à moi être une meilleure personne. Mais c'est pas une version alternative de moi qui serait mieux. C'est juste, c'est quelqu'un d'autre qui m'inspire et qui me pousse à être une meilleure personne. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit.
Oui, oui, complètement. C'est le terme meilleure version de soi qui est nul.
Ouais.
Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'était pour que tout le monde comprenne globalement. Et du coup, est-ce que complètement à l'inverse, il y a certains de vos crushs qui vous font vous sentir nul à chier.
Oui.
Et du coup, pourquoi ? Parce que c'est des crushs, donc c'est pas des gens avec qui vous êtes. Donc pourquoi est-ce que vous vous sentez moins bien ?
Moi, c'est compliqué, il n'existe pas. Donc,
mais toi, t'as vraiment aucun. T'as jamais eu de crush de juste quelqu'un, tu te dis, ah, il est mignon lui.
Non, ça, c'est tout. Genre, et puis ça va pas plus loin que ça, mais pour moi, c'est pas des crushs.
D'accord. T'appelles ça comment alors ? Quelqu'un que tu trouves mignon ?
Juste mignon, c'est
okay,
tout.
Ok, ok. Oui, il n'y a pas de. En fait, crush, c'est dans ta tête, c'est juste à partir du moment où tu te fais des projections dans ta tête, quoi.
C'est ça. D'accord. Moi, vraiment, il est mignon et puis je suis d'accord et puis c'est tout et j'avance. Je me vois pas plus loin avec, pas du tout. C'est vraiment mignon, c'est tout. Mais
du coup, pourquoi moins légitime ? Enfin, pourquoi tu te sentirais moins bien pour un crush ?
En fait, c'est que moi, j'ai tendance au début, quand je connais pas les gens, à les idéaliser, à les mettre sur un piédestal. Et du coup, je vais me sentir un peu comme une merde. Je vais me dire, ok, il faut que je sois vraiment une personne parfaite en tout point, parce que sinon, jamais de la vie, on va vouloir de moi. Du coup, ça me pousse à faire des efforts et tout. Et après, quand j'apprends à les connaître, bah, plus le temps passe, plus moins j'idéalise la personne et plus l'image que j'ai d'elle dans ma tête est proche de qui elle est vraiment. Du coup, après, bah, ça dépend. Des fois, ça, c'est plus un crush. Des fois, ça renforce les choses. Mais c'est surtout, ouais, au début, il y a cette mise sur un piédestal de la personne et qui fait que je vais beaucoup l'idéaliser. Je vais me sentir moins comme, un peu comme une merde.
Ok, je comprends. 100%, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ça. Est-ce qu'on peut vraiment choisir sur qui on a un crush? Parce que du coup, Laëlie, tu parlais des personnages fictifs, mais est-ce que tu fais pas semblant, enfin pas semblant, mais
oula.
Je veux pas dire semblant, mais est-ce que c'est pas rassurant du coup pour toi de dire bon bah je m'autorise aucun crush sur une vraie personne en fait, parce que comme ça, je suis sûre de pas être blessée. Je veux ou peut-être même, je sais pas, est-ce que tu t'encourages toi-même à lire de la fiction, etc., pour avoir des crushs fictifs, ou pour ou est-ce que dans ta tête t'essaies de, je sais pas, est-ce que tu fantasmes volontairement sur des personnages de romans?
Ah non, pas du tout.
Non, non, ça vient juste comme ça.
Ça vient juste comme ça. Enfin, moi, c'est que je vais lire un roman, enfin, je vais lire un roman, je vais regarder un manga. Enfin, je vais regarder un animé, punaise, je vais me faire taper plein comme manga.
Ouh.
Je vais regarder un animé. En fait, je vais, juste comme ça, avec la personnalité, enfin, la personnalité qui a été créée, la manière dont cette personne-là va réagir, ou.
L'attitude,
exactement. Ben, moi, ça va juste me plaire. Juste comme ça. En fait, moi, je pense qu'il doit y avoir une attitude qui est commune à tous ces personnages-là, en fait. Et c'est juste ça, en fait, qui me plaît. Mais dans la vraie vie, ben, je rencontre pas forcément ce type de personnage, enfin, ce type
genre
d'attitude.
Genre les bad boys.
J'ai passé l'âge des bad boys, je pense. Je suis plus trop dedans.
C'est vrai, j'ai l'impression que plus on grandit, moins on est sur les bad boys.
Ah, moi, lycéenne, moi, bad boy, waouh. Complètement. Mais là, maintenant, c'est
quoi l'équivalent du bad boy vers mon meuf?
En vrai, je sais pas, parce que moi, j'étais pas trop là-dedans. Si, en vrai, les meufs un peu rebelles et tout.
Ah ouais?
Ouais.
J'ai l'impression que les mecs, ils aiment pas. Ouais, j'ai l'impression que quand on est plus jeune, du coup, je parle des premiers crushs, tu vois, il y a plutôt un truc de. Une fille calme, un peu timide.
Ouais.
Non, il y a des gens qui veulent une poupée, mais il y a des gens, ils veulent autre chose. Hein.
Oui, bah tant mieux, j'ai envie de te dire, oui. Quand même.
C'est ça.
Mais bon, les poupées chines, merci. qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez que vos crushs peuvent vous empêcher de voir les personnes réellement disponibles autour de vous?
En vrai, ouais. Parce que du coup, si t'as vraiment un gros crush sur quelqu'un, t'es focus dessus. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui tourne au sourd, tu peux ne pas le voir.
Est-ce que du coup, bah, tu priorises le crush alors que tu connais pas la personne, d'une personne que tu rencontrais dans la vraie vie avec qui pourrait se passer quelque chose?
En fait, moi, mes crushs, ça a toujours été des filles avec qui j'étais amie.
Ok. Mmh.
Donc en fait, il y a moins ce truc de ça se passera jamais. Il y a toujours un peu truc de cette possibilité de peut-être ça va arriver, donc. Je me suis jamais dit ça se trouve il y a quelqu'un d'autre en fait. Ouais. Toujours prioriser la personne.
Ok, bah, en fait, j'ai l'impression que c'est presque le plus sain, tu vois, quand t'as des crushs sur des gens, bah, des amis du coup que tu connais déjà. Tu sais déjà qu'il y a quand même des compatibilités. Et quand tu parles d'idéaliser, du coup, comment tu peux idéaliser quelqu'un qui est ami avec toi?
En fait, c'est que quand je vais rencontrer la personne, ça va être direct un crush et on va devenir amis. Et après, au début de la relation, comme je la connais pas du tout, je vais beaucoup l'idéaliser. Et au fur et à mesure de la relation, je vais de moins en moins l'idéaliser, puisque je vais apprendre à la connaître. Et après, soit ça va renforcer le crush que j'ai sur elle, soit ça va juste devenir une amie basique. Et puis voilà, il y a plus rien, quoi.
Ok. Est-ce qu'un crush, il peut être utile, même si il ne mène à rien concrètement? Je parle pas de la personne, je parle du fait d'avoir un crush sur quelqu'un. Est-ce que ça vous est déjà avéré être utile, même si vous avez pas, vous n'êtes pas sorti avec la personne après, vous n'avez pas couché avec la personne? Si on couche pas ensemble, non.
C'est nul. Non, bah moi c'est très très compliqué aussi de voir la même chose. Mais en vrai de vrai, non, je pense que moi ça m'a été utile. Ça m'a été utile, en fait, je suis passée de plein de caps. En fait, franchement, j'ai des crushs en tout genre, on va dire. Je pense qu'il y a vraiment une attitude qui revient, qui me plaît plus qu'autre chose. Mais à chaque fois que je passe d'un puis à un autre, bah, c'est comme si je sortais d'une coquille, en fait, et que j'en apprenais un peu plus sur moi-même, à chaque fois, en fait.
Mmh.
Parce que, parfois, ça peut être un comportement qu'un avait. et qui en fait en grandissant on se rend compte que c'est problématique de fou malade, et l'autre clairement ah non finalement bah c'est plutôt sain comme relation, c'est ça que je veux comme type de relation. En fait finalement ça aussi ça m'aide aussi à voir quel type de relation je voudrais avoir dans la vraie vie.
C'est ça, parce qu'en fait dans ta tête tu dis que c'est trop cool sur le papier, puis une fois que tu es en relation avec quelqu'un qui a ce comportement tu te rends compte
exactement,
que ça va pas du tout faire. C'est vraiment
mais cette personne là reste quand même un crush dans ma tête hein. Ça change pas mais
oui je comprends. Oui, du coup, est-ce que ça t'a déjà été utile du coup d'avoir un crush?
Moi, c'est trop utile d'avoir des crushs.
Ah ouais, pourquoi?
En fait, à chaque fois, j'utilise les passions qu'on a en commune et je vais pas m'inventer de points communs avec une personne si la personne elle aime une artiste ou un artiste que moi j'aime pas du tout, je vais pas me forcer à l'écouter pour faire genre.
Plutôt renforcer celle que t'as
déjà.
Mais
par contre, par exemple, je sais que j'avais une ex-crush, elle aimait beaucoup le skate, elle en faisait beaucoup. Moi, j'ai toujours bien aimé le skate de loin, mais du coup, j'ai utilisé ce crush-là que j'avais pour elle comme prétexte pour apprendre à faire du skate.
Ah là là.
Et maintenant, je sais faire un peu de skate très bien.
Ah ouais, c'est grave mignon. C'est grave fou. Mais oui, je comprends de fou. Mais du coup, ça t'a motivé en fait à vraiment aller au bout d'un
ça.
Truc.
J'utilise ça pour motiver à m'investir plus dans les trucs qui me passionnent.
Bah, dans la même veine, bah, tu vois, un des crushs que j'ai pu avoir fictif, dans le livre, du moins, en fait, apprenez le langage des signes. Et maintenant, j'ai envie d'apprendre le langage des signes aussi.
Trop bien.
Voilà.
Bah, c'est cool quand c'est dans cet ordre-là et que c'est pas un crush qui a envie de consommer des drugs.
Non.
Ouais, des trucs vraiment, des trucs un peu sombres. Ça pourrait, toi, te mettre mal dans ta santé mentale ou dans ton quotidien. Est-ce que ça arrive très souvent aussi?
Heureusement que j'ai pas ça dans mes crushs, alors, maman.
Oui, voilà. C'est chouette. Du coup, est-ce que un de vos crushs, ça vous a déjà appris un truc sur vous? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, par exemple, Lali, tu disais, ça m'a appris un truc à chaque fois, où du coup, j'ai glow up au niveau de mes goûts, on va dire, en fonction de la réalité.
Oui.
Ça t'a appris quoi, par exemple, de concret?
Alors là, j'ai l'impression que tu me poses une colle, j'ai jamais vraiment réfléchi.
Tu vois, genre, à propos de toi-même. Mélodie aussi si jamais tu vois ce que je veux dire, mais moi je sais pas, je me suis rendu compte que vous voyez ce truc de vouloir plaire tout le temps à la personne pour avoir l'impression que en fait la personne elle m'aime et sinon elle m'aime pas et tout, ça montre un énorme truc de confiance en toi qui est bas, tu vois, où du coup tu te plies à la personne, en fait tu sais plus vraiment qui t'es, etc. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'après une rupture faut vraiment prendre un temps avec soi-même parce que sinon tu répètes tout le temps ce même schéma où tu sais pas qui t'es. Et du coup, ça le fait jamais parce que tu vas voir aussi que t'es vachement frustré pour plein de petits trucs, où tu vas te découvrir quelqu'un de colérique ou quelqu'un de triste ou quelqu'un, enfin, ça peut être n'importe quoi.
Ouais.
Ou de maniaque, je sais pas. Et en plus, après, ça peut se répercuter sur la personne, en fait, de pas se connaître soi, ça fait que la personne en face elle a rien compris, tu lui as montré une version de toi qui était hyper chou, hyper calme et tout. Et là pourquoi tu t'énerves en fait, c'est trop bizarre.
Je dirais un truc un peu pas concret non plus, mais par exemple je sais qu'il y avait un livre, là j'ai pas le titre en tête, ne me posez pas des questions sur le livre, j'ai vu, on peut faire de pub, mais ce livre là par exemple, genre le personnage masculin en fait était très collant, très collant avec la personne, un personnage féminin, et c'était tellement romancé dans l'histoire en fait que j'étais là, moi waouh, c'est ça en fait que je veux, quelqu'un qui soit collant et qui soit vraiment là tout le temps.
MDR. Parce que quand on connaît la livre, on sait que pas du tout.
Exactement. En fait, et bon, le jour où je l'ai expérimenté, j'ai détesté. Alors que vraiment, par contre, mais j'adorais le fait qu'il était vraiment à fond sur elle, qu'il était tout le temps là. Hein. J'adorais ça. Mais pour moi, finalement, je suis là, j'aime pas. Et du coup.
Et est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était vraiment quelque chose que tu détestes ou si c'était pas juste la personne ou les personnes avec qui ont été collantes avec toi que t'aimais pas parce que c'était peut-être pas au bon moment, peut-être pas allé.
Non, c'est juste que j'aime pas.
Tout court, genre,
j'aime pas tout court. Okay. J'aime bien juste avoir mon côté. Enfin, moi de mon côté. Après, être avec une personne pendant un moment, bien sûr, en fait. Enfin, des câlins, des papouilles par-ci, par-là. Mais que ce soit tout le temps.
Ouais, non, ça tu peux pas.
Ouais, non.
Ok, non. Malou, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Non, je trouve que vous avez déjà bien dit. Je suis assez d'accord avec vous sur ce que vous avez dit.
Du coup, pour conclure, Ce qu'on voit, c'est que le crush, c'est pas juste une petite attirance anodine, mais c'est une expérience qui est vraiment très personnelle, qui peut révéler un désir, un manque, une envie de changement, parfois même une partie de nous qu'on ne sait pas encore incarner. Et même quand il se passe rien avec l'autre, et bien il se passe souvent quelque chose en nous. La question, c'est ce qu'on choisit d'en faire du crush. Merci beaucoup pour ce débat, c'était super intéressant. Et maintenant, on termine sur ma chronique préférée, celle de Malo, qui va te donner toutes les sorties, événements et bons plans à ne pas rater cette semaine. C'est le moment de noter. Malo, à toi le micro.
Vous avez vu la neige? Vous avez aimé? C'était sympa, vous avez fait un petit bonhomme de neige?
Oui.
Ouais. Le mien était tout difforme, il n'y avait rien qui tenait. C'était horrible, on aurait dit un lépreux après une après-midi au trampoline park. J'aime pas la neige. C'est là, c'est blanc, c'est froid, ça fait rien, c'est même pas bon, ça avait goût de pneu. Ah. Remarquez, ça aura pas duré longtemps, elle est restée à peu près aussi longtemps qu'un premier ministre et elle aurait quand même plus affecté le pays que le cornu. Enfin bref, les sorties. Bah écoutez, la chat GPT, il avait plus d'inspi, alors j'ai dû chercher moi-même, ce sera moins bien, mais c'est mieux que rien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du festival Premier Plan. C'est la 38e édition, ça se déroule du 17 au 25 janvier et c'est à partir de 6,50€ pour les étudiants. On a plus de 100 films qui sont projetés dans 7 sections différentes et qui sont récompensés par des prix. Il y a un jury, bien sûr, mais c'est aussi le public qui vote et on y retrouve également des lectures de scénarios par des comédiens. En fait, c'est un peu notre festival de Cannes à nous, où il faut remplacer la mère par la mène. Pour différentes raisons, il n'y aura pas Brad Pitt, Adèle Exarchopoulos ou Brigitte Bardot. Et il n'y a pas non plus de tapis rouge. Mais à part ça, c'est plus ou moins la même chose. C'est la 38e édition, c'est énorme. Vous vous rendez compte, ça a démarré en 1988. Ou en moins 17 avant moi, selon comment vous préférez compter. Il y a 38 ans, quand t'étais sur internet, ta mère pouvait plus être au téléphone avec son amant et quand tu rentrais après les cours, tu devais fixer le plafond ou rien faire, j'imagine. Il n'y avait pas encore TikTok ou la PS5 et je me souviens pas avoir déjà entendu parler de 3615 Fortnite. Aujourd'hui, on peut payer sur son téléphone avec de l'argent qui n'existe pas et quand on rentre, on peut se poser devant Netflix, Prime Video, HBO Max, Apple TV, Canal+, Disney+, TF1+, M6+, ou autres IPTV. Alors on est en droit de se demander pourquoi on irait dépenser encore plus d'argent pour voir des films. Et bien en plus de passer un moment perso, un moment sympa entre potes et de pouvoir bitcher sur ce perso qu'on sentait pas depuis le début à la sortie, c'est aussi l'occasion de soutenir le cinéma français, aussi bien à l'échelle nationale que locale. En effet, vous pourrez assister, si vous le souhaitez, à des projections de courts-métrages réalisés par les résidents des ateliers d'Angers en leur présence. Le festival Premier Plan, c'est plus de 70 000 personnes qui se réunissent tous autour d'une passion commune. Et franchement, c'est compliqué de faire un art plus accessible que le cinéma. Enfin vraiment, c'est juste, tu viens, tu t'assois, tu t'endors pas, c'est bon. En termes d'accessibilité, c'est sans doute le plus simple. La plupart des gens ont sans doute d'abord été au cinéma avant d'aller au musée. Et ok, il y aura toujours des gens comme Régélé Gorilla qui auront des débats ultra longs sur « Est-ce qu'Interstellar, ça pue la merde ?» Oui. Ou « Est-ce que c'est mieux de regarder des films en VO sans sous-titres ?» Oui aussi. Mais bon, perso, deux de mes films préférés, c'est Fast and Furious Tokyo Drift et Spider-Man Across the Spider-Verse. Et pourtant, ça m'empêche pas d'avoir des discussions passionnantes avec des gens qui ont tellement d'entrées Letterboxd que quand ils te disent le nom, t'as l'impression qu'ils te parlent d'une somme d'argent détournée par le RN. En plus, en s'étant troublé par des débiles qui se prennent pour Scorsese après avoir tapé mon voisin Totoro avec des vrais acteurs dans ChatGPT, des trous de balles qui payent un abonnement pour demander à Grog de dénuder des femmes au lieu de payer un abonnement pour voir des femmes nues parce que ce qui les excite, c'est la déshumanisation et l'absence de consentement, et d'autres débiles qui génèrent toute la journée des vidéos des aventures de Bombardino, Crocodilo et Tung 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 Saur pour profiter du temps d'attention des plus jeunes. Je trouve ça d'autant plus cool et important d'aller soutenir tous les réals, les scénaristes, les acteurs, doubleurs, régisseurs, techniciens, monteurs, make-up artistes, costumiers, stagiaires, étudiants et plein d'autres passionnés que j'ai oublié de mentionner dont les métiers sont en péril à cause de l'IA générative pour leur montrer que le cinéma c'est l'une des formes d'art les plus fédératrices, les plus accessibles parce que comme a dit Aurel San, si tu veux filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme, qu'on y tient et que le cinéma ça démarre bien avant qu'un type dans une chaise crie action et surtout que ça s'arrête quand seul humain impliqué demande à un ordinateur de lui décrire ses rêves. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Malo. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission d'Étudiant Time. Aujourd'hui, on aura parlé des actus avec Colin. On aura vu le focus étudiant. Mon invité Lali a parlé de Mayotte. On aura eu l'astuce étudiante, la chronique santé mentale et les super sorties à faire en ce moment avec Malo. C'était Myria. Retrouve Étudiant Time le mois prochain, même heure, pour une nouvelle émission. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été fidèles au rendez-vous. Vous êtes bien sur Radio G.
Radio G 101.5 FM.
Walking in the midnight sun.
When me was a youth, me used to smoke all the weed in a red flower.